Oui, Guillaume Heller est à présent au bilan de cette grande fête de la fraternité qui a rassemblé 12 000 pèlerins, dont 3 000 personnes en situation de précarité. Samedi, quelques heures seulement avant le coup d'envoi final, après une veillée vendredi soir qui a littéralement fait exploser les participants de joie, j'ai interrogé deux personnalités emblématiques de Diaconia, Monseigneur Bernard Rousset, président du Conseil national pour la solidarité à la Conférence des évêques de France. Vous le reconnaîtrez facilement, c'est celui qui a l'accent du sud-ouest. Et puis François Soulages, président national du Secours catholique, à l'origine de Diaconia. Ensemble, ils tirent donc le bilan.
Un bilan très positif. Je constate qu'il y a d'abord eu beaucoup de joie, et on peut donc traiter de questions sérieuses tout en étant heureux. Et puis surtout, des personnes pauvres ont vraiment été écoutées en profondeur, et ça, c'est un grand appel à continuer dans notre société et dans notre Église.
Ce rassemblement, il s'inscrit dans une actualité chargée dans laquelle les chrétiens ont été largement présents. Il est l'illustration que les chrétiens peuvent s'intéresser à toutes les questions qui concernent aujourd'hui le devenir de l'homme et de notre société. Et c'est une grande joie pour nous que ces 12 000 personnes qui représentent des centaines de milliers de chrétiens engagés au quotidien auprès de leurs frères puissent dire à la société française « Votre sort, votre devenir nous préoccupe et nous nous en occupons ».
Alors un bilan positif, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera la suite à donner à Diaconia?
Quelle suite? Eh bien, continuer d'approfondir le lien entre toutes ces réalisations, initiatives de fraternité et la foi, puisque nous avons beaucoup médité sur le Christ serviteur qui continue à nous appeler, à nous servir les uns les autres. Et le pape François nous dit bien aussi qu'il faut une église avec les pauvres. Ça, c'est la première suite. La seconde suite, c'est que dans nos communautés chrétiennes, eh bien, il faut davantage faire de place à ces personnes en précarité. Il faut que les groupes place et parole des pauvres puissent être davantage reconnus à tous les niveaux dans l'Église. Et puis nous verrons, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont voir le jour parce que les participants ont des idées.
Vous proposez un certain nombre de changements pour la suite. Hein.
Nous proposons en effet que les chrétiens soient moteurs d'un changement général d'attitude, un changement de regard sur les plus pauvres, un respect de la création mais pas simplement dans les paroles. Un changement dans les politiques publiques. Nous pensons qu'il nous faut aujourd'hui les juger en fonction de ce qu'elles apportent aux plus pauvres de notre société, dans une période où le chômage ne cesse de croître, dans une période où les fragilités s'accroissent. Il est important qu'on dise que les politiques publiques doivent d'abord être tournées vers l'amélioration du sort des plus pauvres. Et nous allons demander à toutes les communautés chrétiennes de reprendre ce travail autour des fragilités de la société dans laquelle ils vivent, pour les assumer, pour voir quelles peuvent être leurs places dans un dialogue avec l'ensemble des acteurs de la société civile.
Dans quelle mesure les chrétiens peuvent faire changer les politiques publiques aujourd'hui et dire qu'ils en veulent des différentes?
Mais les chrétiens sont aujourd'hui très largement engagés dans la société. Peut-être la question c'est qu'ils ont oublié quelquefois qu'ils étaient des chrétiens et c'est notre responsabilité d'église de leur donner les outils de relecture de leur action, qu'ils retrouvent combien l'Évangile les a mis en route un jour et combien aujourd'hui il peut continuer à les mettre en route. Et je crois que la transformation de la société, c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est porter l'Évangile au cœur de la société française à partir de ce à quoi nous croyons et qui nous a mis en route.
Et précisément, ces 2-3 ans de démarche ont montré que nous avons agi en Église. Il n'y avait pas d'un côté des organismes humanitaires, de l'autre des évêques ou des prêtres ou des diacres qui faisaient prier, hein, avec quelques groupes. Non, nous avons agi tous ensemble en Église et c'est cela qui est très important. La foi et la charité sont les piliers de l'évangélisation et nous devons continuer dans ce sens-là.
Vous dites que finalement la fraternité et la foi se sont rejoints, ce qui n'était pas forcément toujours le cas jusqu'à présent?
Vous savez, la fraternité a une origine évangélique. Hein. Lors de son premier voyage en pape, Jean-Paul II nous l'a rappelé. Mais effectivement, elle s'est peut-être un peu trop sécularisée. Eh bien nous devons rappeler que si nous sommes appelés à bâtir la fraternité, c'est que nous sommes fils et filles du même Dieu, du même Père commun de l'humanité. Et cela est vrai non seulement entre chrétiens, mais pour tous les humains, sans exception, car nous nous intéressons à tous.
Alors évidemment, vous êtes très enthousiaste hein, sur ce rassemblement qui s'achève. En même temps, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas venus ici à Lourdes restent encore un peu perplexes sur cette démarche Diaconia qui fait un peu jargon d'église.
Oui, bon, c'est un mot grec, même il avait été oublié, il est présent 101 fois dans le Nouveau Testament, et c'est un grand théologien protestant qui l'a remis en valeur, il faut le rappeler quand même. Vous voyez, il y a cette dimension œcuménique, c'est Karl Barth. Bon, peut-être que le mot va faire son chemin, et que dans quelques années, il y aura des diaconies paroissiales ou diocésaines, voilà. Attendons, vous savez, ayons confiance.
On peut traduire le mot diaconia par service. Et donc l'idée, c'est d'avoir une église diaconiale, donc une église servante. Servante du monde, pas servante des chrétiens uniquement. C'est les chrétiens, c'est eux qui font l'église, c'est une église servante, servante du monde. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faudrait traduire.
Voilà des propos de François Soulages, président national du Secours catholique, et de Mgr Bernard Rousset, président du Conseil national pour la solidarité, à la Conférence des évêques de France. Et pour clore ce chapitre dédié à Diaconia, je cite le cardinal André 23, président de la Conférence des évêques de France, dans l'homélie de la messe de clôture samedi matin, des propos qui ont provoqué de chaleureux applaudissements dans l'Assemblée. Aimer ses ennemis, ça prend du temps. Nous aimer les uns les autres, cela demande un effort. Et nous aimer comme Jésus lui-même nous a aimés, jusqu'au point de donner sa vie pour nous, ça demande toute une existence avant d'y arriver. Mais soyez tranquilles, nous y arriverons tous. Nous arriverons tous à perdre notre vie. La question, c'est de savoir si nous arriverons à la donner. Parce que pour la perdre, ça ne dépend pas de nous, mais pour la donner, ça dépend de nous. Fin de citation.